tracking system et tous ces objets techniques, c'est assez fascinant quand on entend les gens parler durant toute la journée. Eh bien, on les traite comme de plus en plus comme des individus. Alors, il y a un philosophe qui a fait un remarquable essai il y a des années de ça, qui s'appelle Simondon et qui a écrit sur le mode d'existence des objets techniques. Et il montre qu'à un certain stade, ces objets techniques deviennent des individus. Et d'ailleurs, on a parlé, mais au moment de la présentation de Google, on a parlé de little brothers, donc des petits frères. Donc vraiment, on qualifie ces objets techniques d'individus. Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, on voit bien qu'il n'y a plus de légitimité à séparer d'un côté les objets techniques et de l'autre côté le monde des hommes et, on va dire, le politique. Donc, technique et politique sont deux sphères qui sont complètement encastrées et qui doivent être appréhendées de manière commune et même plus largement dans des réseaux sociaux, technicaux, politicaux, économiques. Alors, ce qu'on a bien vu à travers les différents exposés d'aujourd'hui, c'est que eh bien, derrière le design technologique, derrière le design technique, eh bien, il y a des idées, il y a des valeurs, et ces idées, ces valeurs, je dirais, ont un caractère normatif, voire performatif. Alors, on a vu ça avec les search engines, on a bien vu que la manière dont le ranking était constitué avait une influence sur nos choix, sur nos capacités de recherche et qu'il y avait moyen de créer des alternatives à ce que, par exemple, Google propose. On a bien vu aussi que les systèmes de cookies nous permettent de nous tracer et permettent de nous identifier. Tout ça pour dire que, de plus en plus, il faut considérer, et on en a très rapidement parlé après l'exposé d'Andrea, il faut parler du code comme une norme. Et donc, il y a comme ça un philosophe juriste anglo-saxon très connu qui s'appelle Lessig, qui parle de code as law. Donc, véritablement, on peut faire le parallèle entre la loi, entre la norme et le code informatique. Alors, pourquoi ? Parce que ça influence nos choix, ça identifie nos trajectoires, et ça peut, le cas échéant, réduire notre marge de choix, réduire notre liberté. Alors, donc, on a beaucoup parlé d'individus techniques, comme je disais, à tel point qu'on en est venu à un moment des exposés à une anthropomorphisation totale, puisqu'on a parlé de syndicat des robots. Donc ça, c'est quand même assez étonnant, c'est qu'on a beaucoup parlé d'individus techniques, et on a même envisagé la possibilité que ces individus se mutualisent et forment une communauté. Alors vous remarquerez qu'il y a quand même un paradoxe, c'est que d'un côté on reconnaît que les robots n'ont pas conscience d'eux-mêmes, mais on postule quand même la possibilité qu'ils puissent former une communauté. Alors là j'embraye sur ce que Nicolas m'a demandé de vous exposer, sur la notion de communauté. Il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet de cette notion en sociologie, en anthropologie, en philosophie, précisément depuis l'émergence de ce qu'on appelle les nouvelles technologies. C'est comme si on avait dû remettre ces notions fondamentales des sciences humaines sur le métier pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Alors, c'est quoi une communauté ? Ben, vous verrez que j'ai absolument aucune réponse à cette question. Les robots n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Est-ce que dès lors, ils peuvent avoir conscience de leur appartenance à une communauté ? Est-ce que pour appartenir, est-ce que la communauté suppose cette réflexivité, suppose cette conscience d'appartenir à ? C'est des questions très vastes. Alors, brièvement, on peut revenir sur l'étymologie du mot communauté. Ça vient du latin communis. Alors, dans cette étymologie, on peut diviser ça en deux. Il y a cum, avec, et munis, la dette. Alors là, c'est très intéressant, spécialement pour un anthropologue. C'est que on pourrait dire que la notion de communauté, eh bien, réfère à des relations sociales qui sont caractérisées par des obligations mutuelles. Et donc, créer un réseau défini par le don, c'est-à-dire par des règles de type donner, recevoir, rendre. C'est le triptyque du don tel qu'on le décrit dans les sciences humaines. Alors il y a donc cette notion de dette, il y a aussi la notion de communion, communis, communion, partager, mettre en commun. Alors, la notion de communauté a été interrogée par les sciences sociales de manière très approfondie au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Alors, il y a un sociologue qui s'appelle Tenis qui a fait une distinction entre ce qu'il appelle la Gemeinschaft et la Gesellschaft. Alors, la Gemeinschaft, ça représente ce qu'il appelle, lui, une volonté organique, donc le caractère organique de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? C'est des communautés où les liens sont très serrés, les liens entre les individus sont... Il y a une très grande interdépendance entre les individus. C'est typiquement le modèle parental, le modèle de voisinage ou le modèle de l'amitié. Et à ça, il oppose la Gesellschaft, qui est la société, qui, elle... traduit plutôt des liens qui seraient desserrés entre les individus, qui seraient rationalisés entre les individus. Alors, lui, pour lui, ces deux notions sont totalement exclusives l'une de l'autre. Mais on verra qu'en fait, il faudrait plutôt les replacer dans une espèce de continuum empirique, comme étant deux idéal types, deux pôles, et entre ces deux pôles, eh bien, il y a toutes des modalités différentes de communauté ou de société. Alors, voilà, donc ça c'est le 19e siècle, hein, ça date, et les nouvelles technologies ont eu cet avantage de forcer les sociologues et les anthropologues à affiner cette notion. Alors, pour l'instant, j'avouerai que réfléchir sur la notion de communauté pour un anthropologue, c'est un véritable sac de nœuds, parce que... ce mot est mis à toutes les sauces. Alors on entend parler évidemment de communauté virtuelle. On entend parler de communauté médiée par ordinateur, on entend parler de communauté épistémique. Donc vraiment, au niveau des catégories, c'est très difficile à faire le partage. Alors, des sociologues ont essayé d'amener des nouvelles catégories, notamment dans une perspective constructiviste. Donc on ne réfléchit plus par rapport à ce que pourrait être une communauté au sens naturel ou au sens substantiel du mot. Et donc quelqu'un a proposé la notion de communauté imaginée. Cette personne s'appelle Anderson, et elle a réfléchi tout simplement sur base de ce que pouvait être la nation pour les gens. Et elle montre que la notion de communauté, finalement, se rapporte à quelque chose qui serait de l'ordre de la fiction. Il y a une anticipation. Donc la communauté serait quelque chose par nature, fondamentalement abstrait. Donc voilà, une notion, la notion de communauté imaginée. Deuxième notion... que les sociologues contemporains avancent, c'est la notion de public. Alors, c'est une notion qui a été empruntée à Tarde, au sociologue Gabriel Tarde, qui lui, donc, a écrit au début du siècle. Et pour Tarde, eh bien, le public, ça désigne une collectivité purement spirituelle entre des individus physiquement séparés et dont la cohésion est toute mentale. Donc cette notion de public a eu une valeur heuristique, principalement dans le domaine des pratiques médiatiques, des publics de télévision notamment, mais elle est très intéressante en ce qui concerne les prétendues communautés virtuelles, parce que elle implique la possibilité pour un individu d'appartenir à plusieurs entités à la fois, donc d'appartenir à plusieurs communautés virtuelles. Et... là, on s'éloigne très fort de la notion de communauté telle que on la concevait au XIXe siècle, parce que à l'époque, la communauté, c'était quelque chose de totalement exclusif. On appartenait à une et une seule communauté, et on ne pouvait pas concevoir d'appartenir à plusieurs communautés. Or, ici, on constate, quand on regarde, par exemple, les communautés libres sur Internet, notamment qui rassemblent des fans de logiciels libres, qu'il y a une possibilité pour un même individu d'adhérer, par exemple, à la communauté Debian, qui développe le système d'exploitation Debian, mais en même temps d'appartenir à la sous-communauté Ubuntu, qui est une children distro, comme on appelle ça, donc une distribution fille de Debian. Donc, voilà un peu comment on essaie de réfléchir ces nouvelles formes de communauté. Donc, j'avais parlé de communauté imaginée, j'ai parlé de public. Il y a une troisième... troisième notion qui est très, très souvent utilisée par les sociologues et les anthropologues, c'est la notion de réseau social. Alors, la notion de réseau social, c'est en fait une vieille notion, sauf que avec les nouvelles technologies, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a essayé de faire coller la notion de réseau social à la spécificité même des technologies numériques, à savoir leur caractère horizontal. Alors de nouveau, là, il faut être très prudent, parce que ce qu'on constate quand on analyse, par exemple, la communauté Debian ou les communautés logiciels libres en général, c'est qu'effectivement, on peut parler d'horizontalité dans la manière de communiquer, d'utiliser l'outil. Simplement, on se rendra très vite compte que le lien social est aussi déterminé par une certaine verticalité, et notamment gagner en réputation, devenir de plus en plus un expert technique. Donc, cette notion est importante, mais on ne doit pas oublier que derrière cette fameuse horizontalité des technologies de la communication, il y a de la verticalité qui s'installe. Alors, les sociologues, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent d'unifier et quand ils décrivent une communauté sur Internet, de faire un mix entre la notion de public, la notion de réseau social. Mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'ils font référence à des communautés abstraites, des communautés spirituelles, représentationnelles, des communautés imaginées. Mais moi, ce que je retire de tout ça, c'est que finalement, la notion de communauté est une notion dynamique. Elle appelle donc, selon moi, vraiment un positionnement très clair par rapport à toute vision nostalgique de la communauté organique telle que on nous la décrivait au XIXe siècle. Et ce qu'on remarque, c'est que à la fois les partisans des nouvelles technologies qui chantent la création d'une intelligence collective, qui ressuscite la noosphère de Teilhard de Chardin, des choses comme ça, à l'instar de ceux qui critiquent les nouvelles technologies et qui les diabolisent, eh bien, ces deux pôles se raccrochent toujours à une vision totalement nostalgique de la communauté. Or, il faut bien tenir compte que si on doit réfléchir sur la notion de communauté telle qu'elle est actuellement vécue sur les réseaux numériques, eh bien, il faut actualiser cette notion et ne pas rester emprisonné par cette vision nostalgique, tribale de la communauté. Alors, qu'est-ce que je dirais d'autre ? Je dirais qu'il faut admettre que tous les agrégats sociaux qui sont en ligne ne se valent pas en termes de pertinence sociale et politique. De nouveau, on ne peut évidemment pas mettre sur un même pied une communauté Facebook, une communauté YouTube et, par exemple, une communauté Debian. Je parle beaucoup de Debian parce que j'ai travaillé pendant un an sur cette communauté-là, qui ne sont pas du tout, au niveau de l'organisation politique et sociale, organisées de la même manière. La communauté Debian témoigne d'un grand formalisme institutionnel. Il y a un contrat social, il y a des textes fondateurs, il y a une éthique parmi les membres de cette communauté. Donc, il faut évidemment faire preuve de nuance. Mais malgré tout, on ne doit pas conclure non plus que les agrégats sociaux qui sont sur Internet, si elles ne manifestent pas un grand formalisme, c'est pas pour autant qu'il faut pas les considérer comme des communautés, et certainement pas comme des communautés virtuelles. C'est ça tout le problème de ce terme virtuel, c'est que il faut pas absolument pas opposer virtuel à réel. C'est un leurre. Ces communautés sont bien réelles et les individus qui y participent ont l'impression de faire partie de quelque chose et de nourrir le lien social en participant. Donc, voilà, je conclurai en disant, évitons de fétichiser la notion de communauté, de Gemeinschaft. Ce qui compte, donc, ce n'est pas le mode d'interaction non plus qui est utilisé, que les... Je veux dire, souvent, on y... on fait grand cas de la manière dont on utilise les nouvelles technologies, c'est le type de relation qu'elles génèrent. C'est ça qui est intéressant. Et dans nos sociétés contemporaines, hors ligne, on peut déjà constater qu'une part grandissante des interactions et des échanges symboliques est déjà médiatisée par toute une série de processus technologiques. Donc, pas de grande différence finalement entre les communautés en ligne et les communautés hors ligne. Voilà ma petite conclusion.
Merci beaucoup.
Je ne sais pas si ça a été très éclairant.
Je vais faire circuler le micro. Je pense que s'il y a des remarques, des questions, des suggestions.
Ce que je voulais peut-être rajouter, c'est que toute la difficulté avec ce dont on a parlé aujourd'hui, et le Web 02 en particulier, et tous les chantres du Web 02 promeuvent véritablement l'interactivité, le caractère social de cette nouvelle technologie, et qu'effectivement, il ne faut pas seulement analyser ça d'un point de vue négatif, c'est qu'effectivement, ce type de technologie initie du lien social et créer du communautaire. C'est tout le paradoxe et toute la difficulté pour analyser un tel phénomène.
Je la pose en anglais. How would you articulate the relation between community and the archives in the context of the internet, of course, in the context of computer-mediated communities.
Avec les archives, est-ce que tu peux préciser
Generally, if you think to Facebook, mm-hmm. You have an archive which is basically corresponds to the community somehow, or it's not that corresponds, but is written collaboratively by the community and by the technical system that powers the community interactions. So my feeling is that within the Web 2.0, a community is something you can own because you own the archive that the community wrote collaboratively. And I'm wondering, as a programmer and even as a person interested in sociality online, how a different technical system can be designed and according to what rules?
C'est une bonne question. On pourrait comparer ça avec la communauté Debian qui a une espèce de fascination absolue pour l'archivage de tous les échanges, de tous les newsletters, de tout ce qui est dit dans les forums de discussion, et où l'information archivée demeure toujours accessible à tous les membres de la communauté et même aux membres qui n'en font pas partie. Ce que j'ai remarqué en analysant la communauté Debian et ce qui est très, il me semble très crucial pour faire émerger la notion de communauté, c'est tout le processus de socialisation qui est induit par la maîtrise de ces archives. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir prétendre à faire partie en tant que membre de la communauté Debian, ça nécessite une certaine maîtrise cognitive, une certaine maîtrise de comment aller chercher l'information pertinente, comment gérer cette information, où aller chercher dans les archives. Et donc, cela va induire un processus de socialisation. C'est-à-dire que quand on débarque, comme je l'ai fait pour la première fois sur le site de Debian, et qu'on se retrouve totalement confronté à un système d'archives qui est babélien, c'est une véritable tour de Babel, eh bien, il faut passer par des contacts, il faut socialiser, il faut apprendre non seulement à se servir de l'outil technique, apprendre à aussi cerner rapidement les bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider à te diriger parmi ces archives-là. Donc j'aurais tendance à dire que effectivement c'est important pour faire advenir le sentiment de communauté d'avoir la pleine possession de ces archives, et principalement pour les individus, de savoir utiliser les archives à bon escient pour s'intégrer dans la communauté. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne sur Facebook et quel usage on peut faire du système d'archives.
Moi, je trouve sûrement qu'une comparaison comme ça, sûrement une communauté comme Debian, il a des archives beaucoup plus distribuées et moins, il y a une différente forme de contrôle. Je trouve que ça, c'est quand même un caractère important à regarder. Mm-hmm.
En fait, c'est pour revenir à ton expérience d'anthropologue et aussi par rapport à Métamorphose, où tu posais la question, mais quelle est la liberté finalement du public dans un système? C'est la même chose pour Jogel. Il et elle créent un monde et on a le choix de se déplacer, merci, entre différentes identités, mais c'est pas nous qui dessinons en créant le monde. Avec la question des logiciels libres, mais c'était vraiment très bien comment tu as répondu, Andrea, t'en fais pas. En fait, je me demande une question. Quand tu as étudié des communautés, enfin, j'imagine que Debian n'était pas la seule, est-ce que, comme c'est expliqué, dans Debian, il y a un contrat social, il y a la licence, il y a une éthique. Est-ce que c'est mieux ou moins bien d'avoir un contrat, des normes, des codes clairs pour créer une fiction d'horizontalité, mais qui en même temps permet un échange de données, permet l'empowerment et permet... Ou est-ce que c'est une régulation par une totale liberté? Est-ce que la régulation, comme on disait sur Internet, c'est il y a l'éthique des internautes, on n'a pas besoin de leur dire tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, va par là. Enfin, il y a eu des études féministes. Maintenant, j'ai oublié son nom. Je l'avais. Celle qui expliquait que l'anarchie ne créait pas d'égalité, mais rétablissait les relations de pouvoir telles qu'elles étaient dans la société. Et je me demande. Enfin, quelle était ton expérience par rapport à ces communautés? Il vaut mieux un contrat, une loi claire ou mais ça, ce ne sera pas objectif ce que tu vas dire.
Non, c'est ça, parce que tu me demandes d'être tout à fait normatif. Quoi. Est-ce que c'est mieux ou moins bien?
Pas mieux ou moins bien, mais quels ont été tes...
Non, mon sentiment, c'est que tantôt je parlais donc des fameux deux pôles, communauté, société, et qu'il fallait les considérer sur un continuum. Donc véritablement, pas comme étant des oppositions, mais comme étant deux pôles. Et au milieu de ces deux pôles, il y a différentes modalités d'organisation du social. Ce que je constate avec Debian, particulièrement, c'est qu'on est très loin de la métaphore que Raymond a formulée, la métaphore du bazar. Hein, donc cette joyeuse anarchie où tout le monde est égal et où on crée tous sur le même pied, on est très loin de ça avec Debian, parce que effectivement c'est très formalisé, mais pour autant on n'est pas dans du juridique. Et donc c'est là toute la nuance, et c'est là que c'est très intéressant avec Debian, c'est que on est certes dans du normatif, on est, je dirais, dans le domaine de l'institution. Donc on n'est pas dans celui de la norme juridique, mais de l'institutionnel qui institue un éthos, qui institue des comportements sur base du don, du contre-don, sur base de l'échange. Mais on voit très rapidement que chez Debian, la problématique, c'est la taille de la communauté. C'est que... fonder une communauté sur un contrat social, sur s'appuyer sur une licence particulière, avoir toute une volonté comme ça de transparence au niveau des valeurs et de la philosophie du projet, en plus avoir de l'excellence au niveau du produit qui est créé, eh bien ça stimule. Et ça stimule beaucoup de gens. Et beaucoup de gens veulent faire partie de Debian. Alors, chez Debian, il y a deux catégories de personnes dans la communauté, et c'est très étrange et très fascinant à étudier. C'est la catégorie des développeurs et la catégorie des utilisateurs, qui finalement obéissent aux mêmes aspirations, au même engouement, mais qui sont deux catégories tout à fait différentes, puisque les développeurs peuvent voter. Et les développeurs peuvent participer directement à la vie démocratique de la communauté. Et donc, de plus en plus, pour l'instant, Debian est plus ou moins à 1000 développeurs, de plus en plus, il faut réguler, et c'est tout le problème de Debian, c'est réguler l'enthousiasme des utilisateurs qui envoient des correctifs, qui corrigent des bugs, qui veulent s'impliquer, et maintenir le niveau d'excellence. Comment faire pour réguler la taille de la communauté? Donc on voit que dès qu'une communauté se formalise, s'institutionnalise, crée de l'engouement et de l'excellence, il y a véritablement un problème institutionnel.
I would like to ask you if you are conscious that the social being that Tarde was referring to was a very different social being than the one now. The human being that he was referring to was talking, was looking at the eyes, was moving, was making connections through moving, maybe, in a social circuit. And the one now is clicking. So I...